Bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Voilà, donc, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, comme chaque semaine, nous réunissons ensemble autour de cette tribune pour justement vider sur la place publique ce trop-plein d'injustices afin de dire combien nous, les citoyens, nous sommes exaspérés par ce système qui mène notre société envers l'incertitude pour le peu dire, l'insécurité, le flou d'un avenir qui fait peur. Hier, nous avons tous vu sur nos écrans de télévision des milliers d'étudiants qui ont brassé le froid et les distances pour aller, cette fois devant l'Assemblée nationale, dire à haute voix non à la hausse des frais de scolarité. Je vous rappelle, chère auditrice, cher auditeur, que c'est depuis 2 ans que les étudiants répètent au gouvernement que la hausse de frais de scolarité n'est pas acceptable, ni présentement, ni dans les temps qui viennent. La population donc s'appauvrit de plus en plus et la classe moyenne s'élargit et la hausse des frais de scolarité ne risque pas simplement de décourager un grand nombre de cette classe d'aller vers les universités, mais plutôt elle va leur barrer définitivement le chemin. Je vous rappelle aussi, chère auditrice, cher auditeur, que le gouvernement libéral de Jean Charest avait augmenté les frais de scolarité en 2007 de $500 sur 5 ans, les faisant passer à $2168 par année. Et en 2012, le même gouvernement va aussi annoncer de nouveau son intention d'augmenter les frais de scolarité de $1625 sur 5 ans. Donc, pour les faire passer justement à $3793 par année, on part d'une augmentation de 127% en 10 ans. Donc, ceci veut dire aussi que, qu'en 2016, les frais de scolarité vont atteindre ou même dépasser les $4700 par année. Donc alors, pour la grande majorité des jeunes étudiants, le calcul ne fonctionne plus. Imaginez-vous un jeune qui va, soi-disant, gagner $15,000 par année et il veut faire ou poursuivre des études à côté des frais d'un loyer qu'il devra débourser. Comment voulez-vous qu'il va arriver à en sortir? Sans vous parler aussi, bien sûr, des soucis de l'endettement et des nombres d'heures qu'il faut ajouter pour rejoindre les deux bouts, même si l'expérience avait prouvé que travailler et étudier ne riment pas tout à fait ensemble. Bref, donc, il y a une vraie panique dans les rangs des étudiants, avec raison d'ailleurs, et qu'il fallait en urgence agir dans ce sens. Je souhaite aussi vous rappeler, comme vous le savez très bien, que les conséquences de la hausse des frais de scolarité ne se limitent pas aux étudiants qui sont sur les campus, mais plutôt elles touchent aussi les familles, les proches qui n'avaient ou plutôt qui n'arrivent pas à venir en aide à leurs enfants, et qui voient la route se rétrécir devant l'avenir de leurs enfants. Donc il faut comprendre que tout le monde est concerné par cet enjeu purement politique, et que tout le monde a le devoir de participer dans ces manifestations et dire finalement non à la hausse de scolarité. Tout le monde devra sortir, même les CPE, les élèves des écoles primaires, les secondaires, puisque cette hausse les guette de près et risque de briser leurs rêves. Maintenant, donc, il est tout à fait évident que dans une société démocratique comme la nôtre, les citoyens ont le plein droit de ne pas être d'accord simplement avec certaines idées ou certaines propositions de leur gouvernement. N'oubliez jamais que ce gouvernement est avant tout élu au pouvoir par ses citoyens eux-mêmes, et qui le devoir revient de respecter justement les demandes de ses citoyens. Et comme dans d'autres cas, la population étudiante a demandé au gouvernement de faire reculer son artillerie lourde de la hausse des frais de scolarité, et qu'ils n'ont simplement pas la capacité d'affronter cet obstacle, alors le gouvernement persiste à atteindre les rives de son projet. L'incompréhensible définitivement s'affiche, et la colère augmente d'un cran pour dire finalement « on va sortir dans la rue », ça n'a pas de sens. Les manifestations sont légales, plutôt un droit fondamental dans notre démocratie. Les étudiants ont fait de ce droit leur cheval de Troie dans leur lutte contre cette hausse nuisible à la population en général et à la classe moyenne, pour ne pas dire aux plus démunis en particulier. Donc j'avais dit que c'est depuis 2 ans que les étudiants demandent au gouvernement de geler les frais de scolarité, mais celui-ci fait comme si les gens n'existent pas. Aucune considération préalable. Le gouvernement va même envoyer un mot d'ordre aux administrateurs collégiales et universitaires de ne pas reconnaître les votes de grève et invite les enseignants de franchir les lignes de piquetage. Avez-vous vu un gouvernement qui tente de créer des tensions entre les établissements et les étudiants? C'est une tactique finalement honteuse de la part du gouvernement pour arrêter et criminaliser un nombre d'étudiants, pensant que cette méthode exemplaire, soi-disant, va décourager le mouvement et lui faire reculer devant ses revendications. Criminaliser justement un étudiant, il faut comprendre, chère auditrice, chers auditeurs, que juste le fait d'envoyer un étudiant devant l'appareil du système judiciaire, et en particulier ici au Québec, c'est terrifiant, traumatisant. Et pour se défaire de toutes les charges que les policiers vont dresser contre lui, l'étudiant, ça risque d'être très lent et coûteuse. Alors les chances d'en sortir sont minimes. Cette sorte justement de répression que le gouvernement exerce chaque fois qu'un individu ou un groupe de citoyens ne sont pas d'accord avec lui devra nous faire réfléchir sérieusement. Vous le savez tous très bien, chères auditrices, chers auditeurs aussi, que la police est au service de l'État. C'est le bras armé du gouvernement, autrement dit, c'est la force légitime par laquelle le gouvernement exerce son pouvoir. Finalement, c'est plus la sécurité de l'État que celle du citoyen qui est préoccupante. Et quand une personne dit non au gouvernement, il est automatiquement ciblé comme un marginal ou un anarchiste, et il est mis sur une liste noire encore plus noire que celle des crimes organisés. Mais un jeune étudiant qui se révolte et que c'est le gouvernement lui-même qui est la cause directe de ce mécontentement, ce jeune-là mérite-t-il réellement d'être traité devant le tribunal comme un criminel? Au micro avec vous ce matin, Adja Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les rabais de pouvoir. J'ai avec moi, comme d'habitude, mes collègues Roland Cazès et Edgar Robin qui vont m'accompagner tout le long de cette émission. Mes invités d'aujourd'hui sont Madame André Bourgault, elle est étudiante en droit à l'Université de l'UQAM. Et j'ai aussi Émile Charette, étudiant en droit aussi, et j'ai M. Guy Benoît Fournel. Donc tout après notre thème musical, nous allons revenir avec nos invités d'aujourd'hui pour nous parler donc peut-être de leurs revendications et plus précisément de leurs collègues qui font face à la justice parce que simplement au fond des choses, ils ont dit non au gouvernement. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs, on va revenir après la pause musicale.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours avec l'émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société. Avant de passer la parole à mes invités, mes trois invités, je corrige le mot, c'était pas Bourgo, c'était Bourbeau, donc c'était Madame André Bourbeau qui étudiante en droit à l'Université de Montréal, Québec de Montréal, et j'ai aussi sa collègue Madame Émilie Charette. Et je suis étudiant en droit et j'ai à côté de moi aussi M. Guy Benoît Fournel. C'est le seul que j'ai bien prononcé son nom. Avant de passer, repasser la parole, j'aimerais bien demander à notre collègue Edgar Robin de nous dire la suite de la victime. On sait que la victime, la troisième victime, deuxième victime ce mois-là, de cette année-là, c'était la victime qui était abattue par la police le soir du 28 février. Est-ce que c'est exact, monsieur Benoît?
Non, ça fait la troisième ou même plus parce qu'il y a eu d'autres.
Non, on parle de l'année 2012, là.
Non, mais même en 2012, je pense qu'il y a eu presque une demi-douzaine de morts déjà.
Ici au Québec.
Au Québec, oui, parce qu'il y avait il y avait le 6 janvier, il y avait Farshad Mohammadi.
Oui.
Puis il y avait aussi quelqu'un qui était tué, il était en train de voler à Laval, je pense. Il y avait Jean-François Nadreau qui était en crise psychologique. Ouais. Maintenant, un Michael Dyer de 23 ans, Saguenay. Ça, c'est 4 et Saguenay. Je pense que j'oublie une
deux. Mais est-ce qu'il y a des développements dans le dossier de Saguenay?
C'est passé très tôt le matin, mardi dernier, le 28 février.
Oui.
J'ai pas des nouvelles qui sont différentes de qu'est-ce qui était déjà rapporté dans les journaux,
etc.
Dans
les médias, oui.
Mais peut-être les gens sont pas au courant de ça. Effectivement, c'était un peu après minuit, la nuit de lundi à mardi, que le conjoint de Michael Dallaire, Emily Lebrun, a appelé 911. Elle a dit que son conjoint était en crise et a cherché de l'aide.
C'est là où l'intervention policière sur le lieu?
Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a demandé, parce qu'elle a dit qu'elle a cherché de l'aide. Alors, je ne sais pas si elle a cherché la police ou plutôt oui. Une ambulance, je ne sais pas quoi, mais elle a dit que sa copine était en...
C'est la même chose que Jean-François. Hein,
c'est très semblable, c'est ça la chose. Et une autre chose qui est très semblable, qui est très... je ne sais pas le mot français.
Ressemblant.
Disturbing. C'est que dans le cas de Jean-François Nadreau, il était en crise.
Oui.
La police s'en venue, il avait un couteau dans la main.
On ne sait pas, attention. Il ne faut pas dire ça parce que moi, j'ai d'autres okay. versions qui disent, c'est pas certain.
OK.
Pas une certitude.
Il était allégué d'avoir un couteau dans la main.
Oui.
Puis, d'après les témoins, ils ont demandé de ne pas bouger, puis presque immédiatement, ils ont tiré là-dessus quand
tout
même.
Tout à fait, oui. C'est ça.
Et c'est plus ou moins la même situation ici avec Mika, d'ailleurs, si on croit son amoureuse, Emily Lebrun.
Oui.
Elle a dit que la police, quand ils sont entrés dans l'appartement,
oui.
qu'elle et Mika, ils ont fui dans la salle de bain.
Pour oui.
Ils avaient peur. Puis, c'était plus ou moins la même chose. La police a demandé de lâcher son couteau.
Mais ils l'ont suivi, j'imagine, jusqu'au salle de bain. Ils ont tiré dans la salle de bain.
Je pense
ça, c'est ce que j'ai entendu.
Ils étaient dans la salle de bain.
Ils l'ont tiré dans la salle de bain.
C'est ça. Mais ils ont demandé un couple de fois de lâcher votre couteau.
Oui.
Puis, bang, bang, bang. Et c'est ça, c'est trois coups. Et ça, c'est très important, un au moins... après qu'il était à terre.
Extermination.
À terre.
Ça nous fait penser à Archer aussi. Hein,
ça c'est très semblable.
Deux balles qu'il a reçues une fois qu'il était sur le sol. On va juste fermer cette parenthèse-là et on va revenir avec nos invités d'aujourd'hui. J'aimerais bien vous présenter, Mme André Bourbeau, je me trompe.
Oui.
Vous êtes étudiante.
Alors, j'étudie en droit à l'UQAM.
Oui.
C'est ma troisième année de droit.
Oui.
Et je suis membre du comité légal de la classe, la coalition large de l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante.
Oui. Et vous étiez hier, j'imagine, vous avez participé aux manifestations à Québec, c'était
oui,
à la capitale.
Bien sûr.
À la capitale.
Oui. Alors, pour s'opposer à la hausse des frais scolarité,
oui.
et demander que, donc, qu'il y ait un blocage de cette hausse dans une perspective de gratuité scolaire.
Exactement. Je reviens à Mme Émilie Charette. Vous êtes aussi étudiante en droit, j'imagine.
Oui, je suis étudiante en droit en première année à l'UQAM, puis je suis aussi membre. Oui.
Ah, vous avez tout.
Oui, en première année.
Oui. Avez-vous participé hier à la. Est-ce que vous étiez allé à Québec?
Non, je n'étais pas là hier à Québec.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu réussir à partir à Québec.
Non, mais il y a beaucoup d'autobus qui n'ont même pas pu quitter Montréal à cause des conditions météorologiques, entre autres.
Oui,
ça a été assez. Compliqué hier, compte tenu des...
Mais il y avait des gens, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont voulu se déplacer à la capitale, mais malheureusement, le transport a fait défaut, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Je passe à M. Guy Benoît Fournel. Vous êtes étudiant en droit aussi, deuxième année?
Troisième année, personnellement.
Troisième année, oui.
Selon que je terminerai cet été.
Oui.
Dans le fond, juste pour débattre un préjugé.
Mais vous m'avez dit que vous êtes membre de surveillance policière?
Oui. Oui, c'est bien ça. Je suis membre, dans le fond, de l'équipe de surveillance des interventions policières.
Oui. Mais qui vous a mandaté pour le faire?
Non, dans le fond, c'est un comité de l'Association des étudiants en droit
oui.
qui a créé un comité de mobilisation pour les étudiants de droit.
Oui.
Et ce comité a créé un sous-comité qui
oui.
est l'ESIP.
Mais pourquoi ça nécessite vraiment la surveillance policière?
Bien, en fait, évidemment, comme la brutalité policière
oui.
est quelque chose qui existe dans la société, donc on ne peut pas passer à côté de ça. Puis faire de la surveillance pour les interventions, oui. c'est nécessaire dans plusieurs cas.
Donc, dans ce cas-là, c'est de la surveillance policière, donc vous êtes témoin vous-même, j'imagine, de brutalité dans les dernières manifestations qui...
Mais en fait, parler de brutalité, c'est un petit peu difficile pour
oui.
moi à ce niveau-là.
Oui.
On a vu plusieurs manquements au cas de déontologie.
Voilà.
Un exemple frappant, c'est pour l'identification des policiers. Plusieurs refusent de s'identifier, alors que c'est une obligation qu'ils ont.
Ça veut dire que l'étudiant demande au policier s'il peut lui montrer son matricule, par exemple,
et
le policier, il refuse carrément, c'est ça?
Dans certains cas, ça arrive.
Ou
simplement, ils refusent de donner leur nom,
oui.
Des choses comme ça.
Ou la réponse qu'ils font, si vous permettez, ils disent, lorsque vous recevrez l'amende chez vous, il y aura mon matricule dessus. Et vous ne recevez jamais l'amende.
Ça, c'est l'expérience de Roland Cazazzo.
Oui.
Avec toujours Mme André Bourbeau. Bourbeau, il faut que je me corrige toujours.
C'est pas grave du tout.
Oui, mais c'est pour moi, c'est grave. Je veux savoir maintenant, peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur la revendication. Les revendications, je sais que vous maintenez le cap et vous n'allez pas lâcher facilement le morceau. Et ces revendications, pensez-vous que vraiment vous allez au fond et vous avez raison et vous le faisiez pour vous et pour d'autres générations ou comment vous l'expliquez aujourd'hui à
donc,
nos auditeurs?
Donc, bien sûr, vous parlez en ce moment des revendications du mouvement.
De revendications, après ça, on va passer au. Oui, oui, oui.
Alors, en ce moment, les revendications donc de l'AC, qui est devenue la coalition large de l'AC,
oui.
c'est en fait donc qu'il n'y ait pas de hausse des frais de scolarité, aucune, parce que nous, ce qu'on désire, c'est la gratuité scolaire à long terme. Alors, c'est sûr que même une hausse de 1 $ n'est pas acceptable.
Ouais. Des frais de scolarité. Ah, vous demandez définitivement la gratuité. Voilà.
Mais c'est sûr qu'évidemment, pour l'instant, on ne peut pas demander, dans le contexte actuel, que nous ne faisons pas la grève actuellement pour une gratuité scolaire. Sauf que nous mettons comme objectif la gratuité scolaire, ce qui nous permet de dire actuellement que nous n'accepterions aucune sorte de hausse. Alors, nous savons que certaines associations étudiantes locales, elles réclament l'indexation des frais de scolarité ou bien une hausse moins grande que celle actuellement. Mais nous, vraiment, c'est aucune hausse des frais de scolarité.
Oui.
Et également, dans une perspective de contrer la privatisation de l'éducation actuellement et dans une perspective un peu plus philosophique contre la marchandisation du savoir.
Oui, mais là, Émilie Jarrette, c'est bizarre qu'on ait des étudiantes aussi, qui sont contre votre projet.
Oui, il y a des étudiants qui sont contre actuellement, qui se sont positionnés.
Le nombre est très peu, mais quand même.
C'est une minorité, qui s'est positionnée pour la hausse des frais de scolarité.
Oui. Comment
j'explique ça? Selon moi, dans la vie, il y a une socialisation des individus. Puis cette socialisation-là, nécessairement, je pense qu'elle reproduit souvent les rapports de pouvoir qui nous sont enseignés dans la société. Puis pour moi, les étudiants pour la hausse ne font que reproduire les rapports conformistes de pouvoir. Comme quoi... Justement, comme le rappelait Ariel Grenier dimanche à Tout le monde en parle, elle parlait d'une élection d'un gouvernement et elle parlait de cette élection-là comme d'un chèque en blanc à un gouvernement élu. Comme si la citoyenneté aujourd'hui, c'était aller voter aux 4 ans, alors que pour moi, la citoyenneté, c'est justement m'opposer puis faire des revendications à ce gouvernement-là sans prendre pour acquis qu'il est élu puis qu'il peut faire... Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, pour moi, cette minorité-là, c'est une minorité en conformité avec l'État.
Peut-être avec M. Guy Benoît Fournel, pensez-vous pas que derrière ces tensions qui sont entre les établissements et les étudiants actuels, pensez-vous que vraiment le gouvernement est derrière ça? Ils veulent vraiment compliquer la situation pour justement... pour que les étudiants reculent devant leurs revendications.
Mais c'est certain que ça fait l'affaire du gouvernement qu'il y a une certaine division du mouvement étudiant. Et dans le fond, ça rend le mouvement moins fort.
Voilà.
Mais là, à savoir si le gouvernement est derrière ça, je ne voudrais pas faire de procès d'intention.
Tout à fait. Mais de toute façon, le gouvernement, il dit non à vos revendications. Donc, il est clair et sincère, il dit non. Oui, Roland?
Moi, il y a une chose que je veux rappeler. Monsieur Lucien Bouchard, dans le temps, est passé en nous disant « Nous ne voulons pas que nos enfants portent la dette sur leurs épaules. » L'autre ministre, l'autre député, tous les députés, tout le monde, tous les partis politiques,
prétendaient
que les étudiants ne devaient pas porter le poids de la dette du pays.
Oui.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les endette.
Oui.
Dès leur jeune âge, on les endette. Alors que tout le monde sait que l'éducation, c'est l'échelle de la société. On fait monter cette société à un état moyen.
Oui, oui.
C'est ceux qui payent les taxes. Alors si on les détruit à la base et on commence à les endetter, on n'aura jamais de taxes de ces gens-là.
Madame Charette, j'aimerais bien savoir, vous pensez que les étudiants n'avaient pas le choix d'en sortir dans les rues pour manifester, hein? Ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire, depuis 2 ans, je pense qu'ils demandent et puis le gouvernement fait le
souverain. Non, évidemment, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on fait une escalade des moyens de pression.
Oui, mais le nombre, un petit peu pas que 100 000. Je pense que la dernière fois, vous étiez 100 000 étudiants. Vous avez atteint quand même 100 000. Hein,
pour la manifestation du 10 novembre, nous étions 200 000 en grève environ.
Ben, 200 000, c'était pas là. Non, c'est pour ça que je dis, c'est arrivé, c'est bizarre, c'est comme si le gouvernement vous a poussé, au fond, d'aller de grandir ce nombre-là, et ça peut être aussi triplé. Est-ce que vous étiez vraiment dans la nécessité? C'était comme vous n'avez pas de, il n'y avait pas de choix finalement.
Ben non, en fait, ça fait longtemps qu'on fait depuis l'annonce en fait de cette hausse là. Il y a eu une escalade des moyens de pression, des avis envoyés au gouvernement, des actions directes, des manifestations, des journées de grève, etc., etc. Puis devant le fait que le gouvernement reste sourd à nos demandes, je pense que comme la hausse est prévue pour l'automne 2012, on avait tout simplement plus le choix de commencer la grève générale illimitée cet hiver.
Bon, donc, madame, peut-être je vous poserai donc cette nécessité, les hausses, ça se présente prochainement. Je comprends la colère des étudiants. Hein, donc, ils se révoltent, il y a une colère et tout. Les gens, ils vont sortir et avec, ils prennent des moyens. Hein, les gens, c'est un moyen d'exprimer comme quoi leur colère. Alors, il était arrivé que des étudiants, ils ont fait des petits gaffes comme ça et tout. Comment, par exemple, moi, c'est étonnant quand je vois, par exemple, la dernière fois que des étudiants qui sont allés sur le pont Champlain pour l'arrêter, et surtout la population, certains conducteurs et tout, disaient que ils étaient fâchés, quoi. Alors que arrêter, il fallait juste poser cette question-là pour un citoyen qui arrête, est mobilisé pendant 30 minutes, il est en colère, il panique et tout. Imaginez-vous les étudiants que tout leur projet va être arrêté, là. Vous comprenez ce que je dis.
Oui, alors vous voulez dire qu'en fait, être bloqué pendant 30 minutes du pont, en fait, ce n'est
Par rapport à un étudiant qui va être bloqué pour toute sa vie.
Effectivement.
Et normalement, je pense que même l'idée de bloquer, ça ne nuit pas. Ça sensibilise la population. Écoutez, là, on vous bloque pour une demi-heure pour vous réfléchir sur le fait comme quoi, nous, notre train, il va être bloqué pendant des années et des années. Il y a des générations qui vont être bloquées, qui ne peuvent pas, malheureusement, avoir la possibilité d'aller justement sur reprendre ce train d'études.
Alors juste préciser que ce n'était pas la classe qui avait organisé cette action-là, ni même celle de l'occupation du Vieux-Montréal. Par contre, c'est quand même dans les principes de la C ou de la classe, en fait, d'avoir des moyens de perturbation économique ou donc de blocage d'occupation mettre de la pression.
C'est exactement, mais qui nuit pas généralement, vraiment, réellement au fond là. C'est une possibilité de sensibiliser la population avec tout problématique. Est-ce que c'est exact?
Ça dépend bien sûr des acteurs.
Parce qu'ils ont blâmé beaucoup ce fait-là et d'autres faits que vous pouvez nous dire aussi, je pense, au Cégep, il y avait...
Oui, il y a eu une occupation du Cégep du Vieux-Montréal. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard.
Ouais, ouais.
Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que l'administration du Cégep du Vieux-Montréal avait décidé, suite au vote de grève, de fermer complètement le Cégep. Habituellement, dans un contexte de grève, les associations étudiantes ont accès à leurs locaux, ont accès à des locaux pour faire leurs assemblées générales, ont également accès donc aux locaux pour tenir leurs activités de grève, continuer la mobilisation. Mais dans ce contexte-là, il y a eu finalement un lock-out par le Cégep pour ne pas que les étudiants puissent profiter de leurs locaux. Et c'est suite à ça qu'il y a eu l'occupation, mais on pourra y revenir plus tard.
Oui. Vous avez voulu dire quelque chose sur l'occupation?
Pour l'occupation, non, il n'y avait pas.
Moi, je trouve que c'est conscientiser en définitive les citoyens que les étudiants sont dans une difficulté.
On va juste peut-être prendre une petite, pas une pause musicale, mais c'est une annonce publicitaire. Et peut-être après l'annonce publicitaire, on va revenir avec vous, nos invités.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 6e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, l'unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde au Canada. Jusqu'au 18 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits, cette vitrine exceptionnelle invite le public à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes. Pour information, consultez le silidor.com. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde.
Bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine favori. Comme à chaque semaine, Émilie nous parlera de sport et Mathieu de science.
Et toi Steve, tu vas encore nous parler de culturel et de social.
Exactement Mathieu.
Sans oublier nos collègues Mélodie et Dino avec la fameuse chronique humanitaire, économique et montréalaise.
Et on commence tout de suite avec...
Pour entendre la suite, rendez-vous tous les vendredis à 11h30 pour 1h30 d'informations et de divertissements.
Le magazine du vendredi, c'est seulement sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, dimanche le 4 mars, de 9h à 16h30, femmes de diverses origines organisent la journée « Les femmes résistent à l'exploitation par les minières canadiennes pour la défense de la terre-mère » au centre communautaire situé au 6767 Côte-des-Neiges, à Montréal. Manifestation le 8 mars à 18h, place Normand-Béthune, métro Guy. Les détails sur wdofdo.wordpress.com.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc je passe directement, je repasse la question à Monsieur Guy Benoît Fournel. Vous m'avez dit, la question que je vous ai posée entre temps, c'était elle est où, c'est-à-dire cette liberté d'expression, elle va aller jusqu'à où, peut-être, de l'étudiant d'exprimer son, sa, pas sa révolte, mais son mécontentement, quoi.
En fait, c'est une question très difficile à répondre, mais dans le fond, je mentionnais ce principe-là pour dire que des actions qui seraient normalement illégales, qui contreviendraient à la loi, dans un principe de manifestation, oui, deviennent en quelque sorte légales, puisque on fait simplement appel à notre liberté d'expression, notre liberté d'association, qui fait en sorte que l'action qui est commise est correcte, il n'y a rien de moralement répréhensible à elle.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Un exemple, tout simplement, par exemple, une manifestation qui passe dans une rue qui va bloquer la circulation.
Voilà, on fait l'exemple des étudiants qui ont barré le pont Champlain, oui.
Mais pont Champlain, je veux dire, c'est... Mais en fait, c'est
pont Jacques-Cartier, je pense.
Oui, c'est le pont Jacques-Cartier. Oui. En fait, là, c'est comme un degré supplémentaire. Puis là, j'arrive... Je suis pas capable, personnellement, de me prononcer pour dire si la liberté d'expression, la liberté d'association permet d'aller jusqu'à ce point-là.
Oui, je comprends.
Mais c'est sûr, il y a certaines limites. Par exemple, juste passer dans une rue, ça peut empêcher certaines personnes, par exemple, de se déplacer comme ils voudraient. Ça pourrait constituer un méfait, dans le sens que ça permet pas aux gens de jouir de leur bien dans leur pleine capacité.
Tout à fait.
Mais
cependant,
est-ce que c'est criminel? Ça peut être sauvé par la liberté d'expression, la liberté d'association, des choses comme ça.
Et si on arrive avec ce moyen-là de sensibiliser la population, comme quoi, écoutez, l'appui, la solidarité, c'est important. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les générations, on le fait pour nos enfants, on le fait pour les parents, on le fait pour des classes et des classes.
Mm-hmm. Et ça, mais surtout dans cette optique-là, surtout, il y a une critique qui se fait aux étudiants souvent, qu'ils sont très individualistes dans le sens qu'ils ne veulent pas payer plus eux-mêmes. Mais il y a plusieurs étudiants, dont moi et André, qui finissons cette année.
Ah, voilà.
Dans cette optique-là, la hausse ne nous touchera même pas. Voilà. Donc, c'est évidemment pour une autre chose que nous faisons.
Et pourtant, vous investissez votre temps et votre cas. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de la limite, de la liberté, la liberté d'expression?
Mais je pense que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, dans notre droit, souvent la propriété privée est mise de l'avant au profit des libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et etc. Les règlements municipaux des villes souvent sont faits en termes très 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 généraux, ce qui donne beaucoup de pouvoirs discrétionnaires aux policiers, etc.
Oui.
Par exemple, dans le passé, dans des cas en justice, on a vu des cas de commerçants qui empêchaient le piquetage et la manifestation parce que pour leur propre intérêt économique, comme quoi ça empêchait leur liberté de commerce.
Oui, tout à fait.
Donc, dans la jurisprudence dans les dernières années, il y a eu un grand recul des libertés fondamentales, en fait, parce que les sanctions au niveau pénal, criminel, civil, économique... prévalent beaucoup sur les droits fondamentaux qui devraient être garantis en vertu des chartes canadiennes et québécoises des droits de la personne, en fait.
Mais oui, Madame André Bourbeau, oui. J'aimerais bien revenir sur le fait, combien d'étudiants ils étaient arrêtés? Il y avait des...
En fait, il y a différents contextes d'arrestation dans la dernière année. En fait, il y a eu des actions le 24 et 31 mars de l'année 2011.
Oui.
Et suite à ces deux actions-là, il y a eu une quinzaine d'arrestations. En fait, en tout 14 arrêtés de 2 à 6 mois après ces actions-là. Donc,
oui,
des gens qui ont été arrêtés à leur domicile suite à ces actions-là.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche à ces étudiants-là? Je pense que c'est au cégep et universitaire, les deux.
Ce sont presque tous, je dirais tous en fait, et toutes des étudiants et étudiantes de l'université. Dans le fond, dans ces deux manifestations-là, à la fin, il y a eu des occupations ouvertes, c'est-à-dire que les gens rentraient dans, par exemple, au ministère des Finances,
occupaient la place.
À la CREPUC, et des gens, c'est pas nécessairement eux, là, c'est pas ça que je veux dire, mais certaines personnes ont entré sur les lieux, sont restés et jusqu'à ce que la police leur dise de quitter, ils sont quittés ou même une fois avant même que la police leur dise de quitter. Et donc suite à ça, ils ont eu plusieurs charges, donc entre autres là, d'occupation par la force, d'entrée par effraction et plusieurs autres chefs d'accusation. Donc ça, ce sont 14 personnes et nous considérons qu'elles ont leur enquête qui ont mené à l'arrestation est menée par l'escouade Gamma dont vous avez parlé
précédemment.
Ça peut-être qu'on pourra revenir également. Ensuite de ça, il y a eu 3 arrestations le 10 novembre dernier. Suite à l'occupation des bureaux de l'administration de McGill. Et les 3 personnes arrêtées, en fait, c'était des gens qui étaient dans la manifestation d'appui. Les gens qui faisaient partie de l'occupation n'ont pas été arrêtés. Et ensuite de ça, et là, peut-être Émilie ou Benoît, Guy, pourront me reprendre. Je crois qu'ensuite, il y a eu les 37 arrestations.
37, c'est ça.
Du Vieux-Montréal. De l'occupation du Vieux-Montréal.
Ils sont tous des étudiants.
Oui.
Au Québec aussi, il y a eu des arrestations.
Il n'y aurait pas eu d'arrestations aux dernières nouvelles que nous avons eues.
Monsieur Guy Benoît Fournel, qu'est-ce que ces gens-là, ces étudiants-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir maintenant une fois être face à la justice?
C'est bien simple qu'ils sont judiciarisés. Ils devront faire face à certaines accusations. Dans le cas du Cégep du Vieux-Montréal, je ne sais pas exactement c'est quoi ces accusations qui sont portées contre eux.
Peut-être que... j'ai une petite liste ici. Peut-être qu'il y a quelques erreurs.
Est-ce qu'il y a voie de fait contre des policiers aussi, je pense?
Oui.
C'est ce que j'ai lu aussi.
Voie de fait armée contre des policiers. Entrée par effraction, complot, méfait, possession d'armes dans le but de commettre un crime, occupation par la force.
Ça, c'est catastrophe là, pour un étudiant. Et vous, avec ça, qu'est-ce qu'il va faire un étudiant avec toutes ces charges-là?
Mais en fait, par exemple.
Est-ce qu'il va poursuivre ses études? Pensez-vous qu'il va poursuivre ses études avec ces charges-là?
Je le souhaite et même que je l'encourage. Certains, par exemple, si on a des charges comme ça, puis on veut devenir avocat, comme qui est le cas de nous trois ici, en fait, ça pourrait empêcher de pouvoir accéder
à la carrière.
Oui, c'est ça. Donc, pour certains choix, ça peut simplement barrer des portes. Simplement parce qu'on fait, on essaie de revendiquer certaines choses. Oui. Donc, ça peut être très dangereux de judiciariser certains étudiants comme, qui revendiquent des choses comme ça.
Dans le casier judiciaire.
Mais s'ils sont déclarés coupables, oui. Ça dépend, c'est quoi les charges qui vont être retenues contre eux?
Ça dépend. Ils peuvent avoir des amendes, ils peuvent avoir même d'emprisonnement, je pense. Il y a une possibilité, pourquoi pas. Pour Émilie Charette, moi, je comprends vraiment pas. Qu'est-ce que vous pensez que ces étudiants-là, maintenant, est-ce qu'il y a une solidarité entre les étudiants pour essayer d'appuyer ces étudiants-là, pour leur dire, écoutez, prenez courage, continuez votre, pour votre débat, pour votre combat, mais continuez aussi vos études aussi, parce que quelqu'un qui a toutes ces charges, imaginez-vous, il faut qu'il ait un avocat, il faut des frais à payer, il faut tout.
Est-ce
qu'il y a une association de solidarité pour appuyer ces jeunes-là?
Nous, c'est ça, notre mandat. André et moi, on fait partie du comité légal de la Coalition Large de l'AC. Ce comité-là, dans le fond, nous, on a bâti un fonds légal, un fonds avec de l'argent, légal pour défendre les arrêtés. Nos mandats, dans le fond, c'est de pas empêcher les gens de participer à des actions directes, à des manifestations et tout ça par peur d'être judiciarisés.
Voilà.
On les aide à remplir leurs demandes d'aide juridique aussi. On a un fonds dans le cas où ils n'ont pas accès à l'aide juridique. On priorise les gens qui font face à des arrestations en profilage politique, qui font face à des peines d'emprisonnement et qui n'ont pas accès à l'aide juridique. Donc, dans cette perspective-là.
Mais est-ce que vous avez rencontré des étudiants dans cette sorte-là qui regrettent même peut-être d'avoir posé un geste?
Ben non, c'est pas une question de regret. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand les policiers font des arrestations, ils retiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges dans une perspective de dissuasion. Aussi, ils mettent beaucoup de conditions à la libération. Les étudiants, par exemple, ne pas troubler la paix, ne pas, quand dans un cas d'occupation, souvent c'est de ne pas se retrouver dans 300 mètres autour du lieu d'occupation.
Oui. C'est la police ou le procureur? C'est plutôt le procureur, n'est-ce pas?
La police avait des conditions.
C'est la police.
Oui. Oui. Mais peut-être, oui, c'est la police, exactement.
Mais il y a d'autres points, je m'excuse. Il y a quelque chose que les policiers ont des droits d'agir, mais il y a des abus des policiers. Ce sont des agents de la paix. Ce ne sont pas des agresseurs. Ils ne devraient pas agresser le monde, comme on a vu à la télévision des policiers agresser des étudiants. Alors ce sont des provocateurs, ces policiers-là. Et ces policiers-là, on doit les foutre dehors ou alors les envoyer dans un hôpital psychiatrique pour les faire analyser, parce qu'ils ne sont pas normaux. Pas normaux du tout.
Oui, vas-y. Oui.
En fait, si vous me permettez, j'aimerais juste dire que j'aime pas vraiment parler des policiers en tant que porn pourrite. On pourrait penser que oui, il y en a. C'est très possible. C'est simplement que le but du droit pénal et du droit criminel est de condamner les personnes pour leurs actions.
Tout à fait.
Donc, c'est les actions illégales des policiers et ils doivent être jugés pour ces actions-là. Qu'est-ce qui est vraiment dommage, qui arrive très souvent, c'est que les policiers peuvent agir en toute impunité.
Tout à fait.
Oui, nous avons observé dans les dernières manifestations beaucoup de cas de brutalité policière et surtout dans des moments où justement il y a moins de visibilité de ce que la police fait, moins de gens qui filment ou justement moins dans des endroits publics. Dans les grandes manifestations comme on a vu hier, il y a également eu une certaine brutalité par les gaz lacrymogènes. Par contre, là, il n'y a pas eu d'attaque physique avec des matraques parce que justement on était un grand groupe.
Est-ce que je peux te poser une question?
Oui, vas-y.
Est-ce que vous trouvez que le fait qu'il y a plusieurs caméras maintenant, qu'il y a YouTube, qu'il y a Facebook et tout ça, est-ce que tu trouves que ça a un effet dissuasif sur la police de faire des choses trop agressives, etc.?
Question André, peut-être?
Bien, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Par contre, évidemment, on a vu des cas de gens qui filmaient de manière ostentatoire et des cas de violence policière qui ont justement été projetés à la télévision ou sur YouTube. Par contre, il y a un cas récent qui m'a donné beaucoup d'espoir. C'était des jeunes du cégep de Saint-Laurent. En fait, eux aussi avaient été mis en lock-out par leur cégep. Eux ont riposté à ça en se disant, ben si l'administration ne permet pas d'accéder à nos locaux, en plus il y avait des étudiants et des étudiantes là-dedans qui, eux, devaient avoir des cours quand même qui n'étaient pas levés par la grève. Ils n'y avaient pas accès à cause du lock-out du cégep. Alors, eux ont décidé de bloquer l'administration du cégep de Saint-Laurent. Ils étaient 150 environ, je dirais, centaines. Et ils se tenaient en chaîne humaine et chantaient une chanson d'harmonium. C'était très beau à voir. Et là, la police arrive, mandatée par l'administration, et ils étaient filmés, clairement filmés. Et là, la police commence à frapper un peu les premières personnes dans la première rangée. Oui. Et l'effet dissuasif de la caméra, l'administration a dit, ça paraît beaucoup trop mal, des jeunes qui chantent harmonium alors qu'ils se font frapper par la police, tout en étant absolument pacifiste.
Donc,
la police a arrêté immédiatement leur action.
Je prends une pause musicale et puis on va revenir pour continuer le débat, ok?
De son pays, les citoyens de sa patrie, les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire accroire, vaut mieux être client de son pays, que citoyens de sa patrie, quand ils échangent à cap soleil, pour une carte de crédit, nous gavons de potions verbales, qui ne soulagent aucun mal, petit crédit, grosse maladie. Mais y'a pas de soin quand c'est privé, c'est justement là que t'en es privé. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire accroire, on est client de son pays, que citoyen de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire accroire, vaut mieux être client de son pays, que citoyen de sa patrie. Quand le concierge s'empare des clés, qui appellerait Max, pose des pancartes, vente de feu, vente de garage, les hypothèques étaient payées, y a des odeurs de patronage, de propriétaires à locataires, ça serait du sort,
PPP. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est les clients de son pays, les citoyens de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est les clients de son pays, les citoyens de sa patrie. Quand ils s'assoient dans leur bureau, cachés derrière leur grand rideau, les idées fixent l'estomac plein. Maintenant l'âme équilibrée, ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut montrer, il se fabrique un paradis en nous jetant tous en enfer. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est bien de son pays, que citoyen de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est mieux client de son pays, que citoyen de sa patrie. Quand je suis tout seul dans mon petit coin, rien dans les poches, rien dans les mains, au fond des bottes, un froid humide, hydro-coupé, le frigo vide.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, chers auditeurs, revenons à nos invités d'aujourd'hui, et je reposerai directement la question à André Bourbeau. Vis-à-vis, quelles sont les démarches finalement que vous avez, que les associations ont fait
Ben déjà, la création du comité légal, c'est une création récente, due à l'escouade Gamma, en fait, et la judiciarisation du mouvement étudiant, parce que, en fait, les 14 personnes qui ont été arrêtées suite au 24 et 31 mars, ce sont tous et toutes des gens, ou presque, qui étaient élus dans des postes d'exécutifs ou bien des comités de travail de l'AC.
Alors, c'est eux qui sont ciblés, c'est eux qui sont arrêtés?
Oui, suite aux actions, comme organisateurs, donc... ou participants, là, dans certains cas, donc selon les accusations, sans que ça soit nécessairement le cas. C'est pas ce que je veux dire.
Donc,
je veux dire leurs accusations concernant ça. Nous, en fait, les démarches qu'on fait, c'est de faire une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour dire qu'en fait, les actions de Gamma sont de la discrimination basée sur les convictions politiques, donc ce qui est en contravention avec la Charte des droits de la personne du Québec. Et puis...
peut-être que je passerai la parole à M. Guy Benoît Fournel. À propos de... Vous disiez que les étudiants avaient de la difficulté à trouver l'identification des policiers.
Ah oui, c'est très vrai. Dans le fond, c'est un gros problème qu'on a remarqué avec les CIRC lors des dernières manifestations. En fait, les policiers ont une obligation déontologique de s'identifier et de porter une insigne prescrite par la loi qui nous permet de les identifier. En soi, le fait qu'ils ne soient pas identifiables, c'est pas, dans le fond... c'est pas quelque chose de si grave que ça. Ouais. Le problème, c'est surtout l'impunité qui vient avec ça. Ouais. Souvent, il peut y avoir des recours contre...
Comme vous disiez, c'est pas grave. On n'arrive pas à identifier quelqu'un. Comment voulez-vous qu'on pose une plainte contre lui?
C'est exactement à ça que je m'en venais. Ouais. Parce que souvent, on peut vouloir porter une plainte déontologique ou même une plainte criminelle contre un policier. Mais si on ne peut pas l'identifier, le recours tombe.
Surtout le matricule, surtout. Là. C'est le matricule qui fait qu'on trace le policier et qu'on peut déposer une plainte contre lui.
Oui, c'est ça.
Alors, voilà.
Maintenant, pour...
juste pour terminer, dans le fond, on souhaite faire une coordination des actions au sein de l'ICIP. Donc, d'abord, faire un appel aux forces de l'ordre puis espérer que ça soit entendu, puis qu'ils commencent à mieux s'identifier, s'assurer que les policiers s'identifient, s'assurer qu'ils respectent la loi, leur loi, notre loi. Puis si ça fonctionne pas, en fait, il va y avoir une condamnation des sanctions qui irait jusqu'à des plaintes déontologiques en très grand nombre.
Donc vous demandez aujourd'hui aux policiers qui nous écoutent aujourd'hui de respecter ce...
Oui, c'est ça. Ça permet de respecter la loi.
Oui, exactement. Je poserai une question maintenant à Émilie Charrette à propos de... Quelles sont les propositions de la loi vis-à-vis, justement,
Ben, en fait, ce à quoi je voulais en venir... ben c'est de
je parle
que...
de code criminel
ouais, hein, notre code criminel actuellement par différents articles comme tel l'attroupement illégal, le fait de troubler la paix, le méfait, etc. Ben vient criminaliser d'emblée toute forme de manifestation en quelque sorte. Que oui, dans la loi fondamentale qui est la Constitution, on devrait pouvoir se réunir de façon pacifique, etc. Mais dans les faits, dans le code criminel, c'est pas ce qui arrive. Puis c'est à tout moment un policier aura le pouvoir de déclarer une manifestation illégale parce que toute manifestation, en quelque sorte, dans un but commun, il y a plus que trois personnes par rapport à l'attroupement illégal, notamment. Puis par rapport au fait de troubler la paix, c'est un peu ça l'idée. On parlait de perturbation tantôt. C'est un peu ça l'idée, la perturbation. En fait,
c'est normal. Les étudiants, s'ils vont envahir la rue, hein, donc ils vont.
Par rapport au code de la sécurité routière, de bloquer une artère, d'empêcher la libre circulation.
Il faut attention aussi parce que j'imagine que les étudiants, avant de faire la manifestation, ils demandent une autorisation de faire aussi.
En fait, récemment, nous suivions une formation sur la sécurité en manifestation et les gens disaient que il n'y a pas de permis qui se demande à la ville et eux ont fait l'effort d'aller demander une fois un permis, comme certains considèrent qu'il faut demander un permis et la préposée de la personne qui les a reçus à l'hôtel de ville ne savait pas de quoi ils parlaient. Donc finalement, il n'y a pas d'autorisation qui semble être requise pour avoir
une
manifestation.
C'est bizarre parce que moi, il me semble que c'est...
On a le droit de manifester sans demander d'autorisation du moment qu'il y a une injustice ou qu'il y a un préjudice qui est fait, on a le droit de manifester. Voilà. Alors, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de... C'est pas de la construction, c'est de la manifestation, c'est... Et ça existe au Québec depuis Jérusalem. On a fait toute notre société avec les manifestations. C'est l'évolution.
Maintenant, pour Émilie Charette, qu'est-ce que vous souhaitez réellement?
Ce que je souhaite réellement, concrètement, actuellement, c'est nécessairement une victoire du mouvement étudiant par toutes nos actions directes et tout ça. J'aimerais que le gouvernement nous entende et...
Sur ça, je pense qu'il y aura des... C'est sûr qu'il y aura...
Ne persévère pas dans cette hausse, en fait.
Mm-hmm. Mais vis-à-vis, moi, quand je dis que vous souhaitez aussi, à propos des arrêtés aussi, il y a des victimes aussi des arrêtés. Vous souhaitez que...
Ce que je souhaite pour les arrêter, je souhaite que ça ne ralentisse pas leur parcours militant. Je pense pas qu'il faut se laisser décourager par ça, parce que c'est justement dans ce but de découragement que les militants sont criminalisés et judiciarisés. Je pense que c'est important de se défendre, justement par le fond légal, c'est exactement ça qu'on fait. Je pense que c'est important de prendre les moyens pour continuer à faire des actions directes et à ne pas se laisser décourager.
Voilà pourquoi il y a des années que je demande que ce soit un préfet de police qui dirige la police et non pas le maire Trudel de Verdun là, qui dirige toute la police et qui fait, c'est la pagaille, c'est la grosse pagaille dans la police.
Madame André Bourbeau, j'aimerais bien savoir, avez-vous quelque chose à dire aux policiers aujourd'hui?
Alors, ce que je pourrais dire aux policiers, tout d'abord,
c'est sûr
que l'escouade Gamma n'est que le symptôme de ce qui se passe déjà à la police de Montréal, c'est-à-dire un profilage politique.
Alors qu'on applique ça sur les étudiants, là, c'est encore plus dérangeant, vous comprenez?
C'est dérangeant pour que ça soit appliqué aux étudiants et étudiantes, mais c'est dérangeant pour que ça soit appliqué à tous les mouvements sociaux, mais aussi aux personnes racialisées, aux personnes marginalisées, aux itinérants et itinérantes. Donc, nous opposons à tout profilage, en fait, de la part de la police de Montréal, faisant en sorte que certains groupes de personnes sont systématiquement visés par leur action de répression. Donc, c'est sûr que nous, on souhaite que l'escouade Gamma n'existe plus. Par contre, on est réaliste. On sait que la surveillance policière des mouvements sociaux va continuer à se faire. Évidemment, nous, on souhaite pas que ça arrive.
Le traitement, vous voulez dire que...
C'est ça. Mais l'escouade Gamma, nous, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça a augmenté la judiciarisation du mouvement étudiant. Donc, nécessairement, on demande qu'ils cessent leur activité. Leur nom implique déjà qu'il y a de la discrimination basée sur les convictions politiques en parlant des mouvements marginaux et anarchistes, alors qu'ils s'attaquent pas nécessairement juste à des mouvements anarchiste. L'AC n'est pas nécessairement anarchiste, mais eux englobent tous les mouvements de dissidence sous cette appellation-là.
Peut-être je passerai un dernier mot aussi à notre invité, M. Guy Benoît Fournel. Avez-vous quelque chose à dire, vous, vous êtes le plus sage ici, il me semble, avez-vous dire aux étudiants, là, est-ce que vous nous encouragez de continuer le combat, qu'est-ce que vous leur, si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui aux étudiants qui vous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire?
Mais en fait, c'est bien certain que c'est une lutte qui se passe en ce moment entre les étudiants et le gouvernement, je dirais même entre la société et le gouvernement. J'invite tous les étudiants à participer à cette manifestation, à participer au mouvement étudiant, à participer à ce qui va nous permettre de battre cette hausse, à ce qui va nous permettre de pouvoir étudier dans une société qui va être équitable, qui va permettre une égalité des chances pour tous et permettre, on l'espère, une meilleure société pour l'avenir.
Excellent.
Mais quand on prend, par exemple, juste pour les itinérants, excusez-moi, pour les palais de justice, l'encombrement de la justice, 15 millions de dollars ont été donnés en tickets aux itinérants. Et combien? 35 552 itinérants ont des dettes de 16, 18 000 jusqu'à 20 000 $.
Ben voilà.
Alors imaginez le système judiciaire que nous avons.
Ben, ajoutez, vous avez une seconde.
Ben, juste une petite chose. Au départ, vous nous disiez, vous pensez que vous allez réussir dans votre combat, et puis j'ai pas eu la chance, mais oui, je pense qu'on va réussir dans notre combat. En ce moment, on est 90 000 personnes en grève, et puis il y a déjà 25 000 personnes qui attendent de déclencher la grève, ils ont déjà un mandat, et puis il y a 60 000 personnes qui vont se prononcer sur la grève généralité très bientôt. Donc, nous considérons que notre rapport de force est toujours en augmentation et que nous vaincrons dans cette bataille.
Vous avez quelque chose à dire à propos du ministre de l'Éducation? La ministre d'éducation, ses propos, j'exige et je veux continuer. Tu sais, elle est très ferme sur la décision du gouvernement.
Elle est très ferme, oui. Elle est surtout sourde à nos revendications. Mais comme André le dit, notre mouvement, il se bâtit, il grandit sans cesse. Il y a des votes de grève échelonnés jusqu'au 22 mars, des déclenchements de grève, etc. Donc, je pense que rendu là, ce n'est qu'une question de rapport de force.
C'est une question de temps aussi.
Moi,
pour
je trouve qu'elle est Alzheimer. Elle a oublié quand elle a étudié, elle, là, que ça coûtait bien moins cher, les études.
Oui, tout à fait juste. Oui. Donc, deux secondes.
Ah, oui, c'est juste pour dire qu'elle a admis elle-même avoir manifesté lorsqu'elle était étudiante.
Et voilà, donc, ce qui fait. Donc,
ce qui
voilà.
Est bon pour elle, pour bon pour les autres.
Malheureusement, c'est tout ce qui nous reste du temps de notre antenne. Je profite pour remercier nos trois invités. Donc, André Bourbon. Étudiante de droit, Madame Émilie Charette, étudiante de droit aussi de l'Université de Montréal, de l'UQAM à Montréal, c'est ça, l'UQAM, et Monsieur Guy Benoît Fournest, tous les trois sont étudiants de droit, faculté de droit. Donc, on les remercie d'avoir accepté notre invitation et de leur témoignage. Merci à mes collègues Roland Cazès et Edgar Robin pour leur implication et le soutien. Donc, un grand merci aussi pour Madame Suzanne Charlon. Elle nous a rassuré la diffusion de cette émission à Radio Centre-Ville 102.3 FM. On dit merci de nous avoir cédé la parole afin que la parole de l'autre existe. À moi, chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Passez une bonne fin de semaine et à vendredi prochain. J'ai fait un...
Rejoins-moi et tu auras ta vengeance. Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
L'émission La Réflexion, une émission traitant des sujets d'actualité, nationale, internationale et régionale. Tous les mardis soirs, de 23h30 à minuit 30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM, avec votre fidèle animateur, Audrey Estimé.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.